Le jeudi s'allie l'intime et l'agréable. C'est le grand format de la JT du local.
On en parle souvent dans cette émission du milieu artistique, du geste, du son, de l'élan, mais assez peu de ce qui se passe autour ou en dessous. Comment on travaille, comment on récupère, comment on tient. La santé dans ce secteur-là, ce n'est pas seulement une question médicale. Je crois que c'est une manière d'habiter son métier, d'organiser son temps, de trouver une place juste entre l'exigence, l'envie et la réalité. J'avais envie d'aborder ce sujet sans le charger, sans le réduire non plus, mais en cherchant à comprendre qu'est-ce que ça implique concrètement de créer dans un milieu où le rythme est soutenu, les sollicitations nombreuses et les attentes élevées? Et comment préserver de la lucidité, de la stabilité, voire du plaisir dans un tel contexte? Deux femmes travaillent ces questions, Noémie Barillet et Thérèse Sayarat. Elles seront présentes lundi 17 novembre à l'occasion du Forum sur la santé des musiciens qui aura lieu au 40 de 14h à 21h. Avec elles, aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un pas de côté pour voir comment on continue à créer, à jouer, à faire circuler quelque chose sans se perdre en route, sans se trahir soi-même, puisqu'on peut en arriver jusque-là, je crois, parfois. C'est l'agité du local qui commence, c'est même le grand format, bien. Bienvenue à l'auditeur de l'autre radio, je suis Margot. Parlons maintenant santé.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Alors on parle souvent de la santé du public, mais beaucoup moins de celles et de ceux qui montent sur la scène. Derrière chaque concert, chaque création, il y a des corps qui sucent, des têtes qui doutent, des rythmes qu'on choisit pas toujours. Comment garder l'équilibre dans un milieu où la passion, la performance et la précarité se mêlent en permanence? À l'occasion du forum sur la santé des musiciennes et des musiciens organisé par le 6x4 et le pôle de coopération pour la filière musicale, deux femmes croisent aujourd'hui leurs regards. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Noémie Barillet, psychologue clinicienne, chargée de production et artiste pluridisciplinaire qui travaille sur les freins et les leviers de la santé mentale dans les métiers de la musique. Bonjour Noémie, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à toi pour l'invitation.
Et alors, à tes côtés, il y a Thérèse Sayarat, musicienne, conférencière et créatrice du podcast Tamalou. Thérèse, vous interrogez sur, depuis plusieurs années, la place du corps, de la vulnérabilité et du soin dans une industrie où l'on demande sans cesse de tenir. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui.
Merci.
Alors ensemble, on va parler aujourd'hui de ce qu'on tait souvent, la santé, l'équilibre et la manière de continuer à créer sans s'abîmer. À toutes les deux, j'ai envie de vous poser la question. On parle souvent de création, de performance, de passion, mais beaucoup plus rarement de santé. Pourquoi, d'après vous, ce sujet reste-t-il encore si peu abordé dans le milieu artistique?
Je pense que c'est des métiers où on parle de métier passion, on parle de métiers où il y a un besoin continuel d'exercer son art, et le fameux « show must go on » qui gomme beaucoup de problématiques. Et en plus de ça, il y a aussi la question de qu'est-ce que c'est que la santé et qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé. Et la bonne santé, ce n'est pas que l'absence de maladie, et la santé, ce n'est pas que le corps. C'est quelque chose de beaucoup plus global et complexe que ça.
Et j'ai la sensation aussi que, en fait, il y a effectivement la santé des artistes vue par elles et eux-mêmes. Et puis, il y a aussi comment toute une industrie considère, en fait, l'artiste, sa santé mentale et sa santé physique. Et peut-être aussi que on se rend compte qu'on a beaucoup glamourisé il fut un temps, et ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, enfin pas mal aujourd'hui, mais toute la question par exemple des addictions, oui, le rapport aux drogues, les rapports à l'alcool, à la fête, effectivement à la surperformance, etc. Et que plutôt que d'être dans une dynamique de prévention, on est beaucoup à glorifier quelque part ce fameux club des 27, les Kurt Cobain, les Amy Winehouse, etc., qui sont considérés comme des génies partis trop tôt, plutôt que d'être vus comme des artistes en fait souffrantes et souffrants, dont on n'a pas pris soin et sur lesquels on s'est un petit peu fait de l'argent sur leur dos. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi ça qui rentre pas mal en compte.
Et dans vos expériences respectives, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de l'ordre de la peur de fragiliser l'image de l'artiste et puis le manque d'espace peut-être aussi pour en parler de cette question de santé et de santé mentale?
Si, j'ai la sensation en tout cas que effectivement c'est arrivé. C'est bah, quelque part le soi et le contexte à jouer justement quand il n'y a pas de représentativité, bah, on ne se sent pas légitime d'en parler. Ça joue beaucoup. Et puis effectivement, peut-être parfois un manque d'information. Enfin, Noémie a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais parfois quand on ne sait pas, c'est difficile aussi de pouvoir bah, poser des mots dessus, de faire vraiment un lien entre, par exemple, le stress et des symptômes physiques et des répercussions mentales et vice-versa. Donc, aujourd'hui, il y a un petit peu un changement de paradigme qui s'opère, en tout cas dans une partie des artistes et des professionnels de la musique et de santé aussi, parce qu'il faut rappeler que les médecins ne sont pas nécessairement formés à la santé des artistes. Il existe la médecine du sport, mais jusqu'à présent, dans les cursus officiels, il n'existait pas encore forcément de médecine des musiciens et des musiciennes. Alors aujourd'hui, il y a des personnes qui se regroupent et commencent à créer des formations autour de ça, mais à l'époque, ça n'existait pas tellement, quoi. L'enjeu dans tout ça, c'est que si on n'en parle pas, au-delà du fait de ne pas tellement savoir comment le faire, c'est aussi parce qu'on a bah, simplement peur de perdre son job, effectivement. Et on l'entend encore aujourd'hui. Enfin, moi, j'en ai fait l'expérience, en tout cas, je suis une personne greffée, et à l'époque, juste avant ma greffe, certains et certaines m'avaient même conseillé de ne pas en parler.
Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire et aussi ta réponse à la première question, il y a tellement ce mythe de l'artiste qui doit aller mal pour créer et pour créer du beau que je pense qu'il y a aussi des artistes qui ne veulent pas aller bien et qui ont vraiment peur d'un bien-être qui leur enlèverait une espèce de ces espèces d'épiphanies artistiques qui viendrait de la souffrance, exclusivement.
Je suis très d'accord avec ça.
Noémie, quelque chose qui m'a intéressée, c'est que tu parles d'écologie de travail. En tout cas, tu lis le psychologique avec une notion d'écologie. Qu'est-ce que ça signifie dans un milieu justement où on enchaîne les projets, les déplacements, les temporalités précaires?
Alors, c'est, là, dans le sens d'écologie de travail, c'est plus au sens de l'organisation de son temps de travail et de son univers de travail. Du coup, je vais te faire une réponse en deux parties. Sur les questions d'organisation de travail, c'est très, très important parce qu'on sait aujourd'hui que les artistes sont des personnes qui sont souvent très isolées dans l'exercice de leur profession, qui ne consiste pas seulement en se produire sur scène. Il y a tout un à côté, il y a tout ce qui se passe en dehors des tournées, et même quand c'est en tournée, il y a plein de moments où en fait on est un peu livré à soi-même. Et si on n'a pas un peu ces codes d'organisation, ça peut vite être compliqué, voire un petit peu dangereux. Après, sur une question plus donc écologique au sens préservation de la planète et de notre environnement. C'est compliqué parce que ça représente un vrai conflit de valeurs pour de plus en plus d'artistes qui ont envie de placer ça au centre de leur pratique et où c'est très compliqué. On sait que c'est un milieu qui n'est pas en reste sur ces questions-là. Voilà, hein, qu'est-ce que ça coûte une tournée, ne serait-ce qu'un concert, c'est assez impressionnant. Donc ça pose question. Il y a des personnes qui réfléchissent sur ces questions-là, comment faire une scénographie, par exemple, sans rien acheter, mais uniquement avec voilà, du matériel réutilisé. Est-ce qu'il y a systématiquement besoin d'avoir des canons à flammes sur scène ou pas? Enfin voilà, donc ça pose question, mais ça peut être compliqué pour certains artistes. C'est un vrai conflit de valeurs, ça.
Thérèse, on va te retrouver sur un temps. Je vais retrouver le nom précis. Tu seras en modération sur un temps santé et bien-être des artistes. Comment aider les artistes à lever le tabou sur les questions de santé dans une industrie performative ? Moi, ça m'intéresse un peu cette notion d'industrie performative. Qu'est-ce qui concrètement, dans les structures, les attentes du secteur, met les artistes en tension, d'après toi ?
À peu près tout ce qu'on nous demande. Enfin, c'est beaucoup le rythme de travail, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, la nature de notre travail a énormément changé. Il fut un temps où les artistes étaient un petit peu plus, entre guillemets, simplement artistes-interprètes, ce qui est déjà énorme. Hein. Mais aujourd'hui, par ailleurs, on se retrouve confronté à devoir travailler énormément sur nos réseaux sociaux. Alors ça, c'est un vrai sujet. À poster en permanence. On remplace même les services com presque de certains festivals et autres, parce que finalement, c'est à l'artiste de faire des vidéos pour dire « Coucou, je serai là, telle date, etc. etc. » Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est chronophage. En fait, une vidéo de 15 secondes, si on veut avoir l'air bien dessus, etc., et qu'on a une image d'artiste à pérenniser, ça dépend complètement du rapport à soi et à son image. Il y a des gens qui sont tout à fait capables de le faire à l'arrache dans leur salon en pyjama, mais la plupart d'entre nous, encore un peu matrixés par le système, a besoin de se sentir un peu plus prête et prêt, d'avoir une bonne lumière, etc. D'autant plus que l'algorithme ça a un impact sur l'algorithme. Donc c'est pas qu'une question de l'image de soi à soi, c'est aussi de répondre aux attentes pour pouvoir être vu simplement et être entendu sur les réseaux. Ça va être le booking, l'auto-management pour ma part, par exemple. Moi je m'occupe de la moitié de mon booking, je m'occupe de produire mes disques. Aujourd'hui je suis en coproduction, donc j'ai pas un label entre guillemets qui fait tout pour moi en dehors d'écrire des chansons. Les RP c'est pareil, enfin c'est un poste qui coûte extrêmement cher, donc il y a énormément d'artistes qui n'ont pas les moyens quelque part de se payer tout ça, donc on cumule finalement facilement 17 casquettes, déjà dans les métiers artistiques, qui en plus ne nous suffisent pas pour vivre. Donc il faut aussi faire des choses à côté pour pouvoir soit boucler son intermittence ou simplement payer son loyer. Moi, je fais du coaching scénique, du stylisme et de la DA, des conférences, comme le 17. Et évidemment que je fais tout ça par amour, mais parfois, j'aimerais que simplement dormir. Enfin, c'est tout simplement me reposer, partir en vacances comme plein d'autres. Ou même simplement me soigner, parce qu'on parle de santé, mais parfois on aurait besoin simplement d'aller chez le kiné, d'aller chez l'ostéo, ou à l'acupuncture, ou que sais-je, chez le dentiste, ou je ne sais pas quoi, mais on est tellement pris par ces semblants de priorité quelque part qui font que finalement on trouve peu de temps pour soi, alors que c'est la clé, je crois, de la pérennité de nos carrières. Mais ce n'est pas ce qui est vendu, donc on n'a pas le réflexe quelque part de le faire, quoi.
Donc je crois que ce qu'on peut dire et ce que vous dites toutes les deux, c'est qu'il y a un système qui a évolué, qui fonctionne aujourd'hui aussi différemment, qui continue d'évoluer, et qu'il ne s'agit pas forcément, pas seulement et peut-être presque pas, d'une responsabilité individuelle, mais que ça relève finalement d'un système, en fait. Tout ce qui met à mal ces questions, là je pense à la santé mentale, mais en fait la santé physique aussi, par rapport à ce que tu viens de dire, Thérèse.
Complètement. Enfin, pour le coup... l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je veux dire, que ce soit dans l'industrie de la musique, dans une société tout entière, en fait, on a tous et toutes nos droits, nos devoirs, et puis on est chapeauté par des systèmes, alors qu'ils soient à petite échelle ou à plus grande échelle au niveau des États, qui sont censés, en fait, pour pérenniser nos carrières et comprendre déjà l'utilité de la culture dans le développement de nos sociétés. Et aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une vraie décorrélation entre ce que souhaitent les artistes et comment ils et elles peuvent travailler, et ce que impulsent finalement nos gouvernements et puis les politiques culturelles. Je donne un exemple rapide, mais l'IA, par exemple, on ne nous demande pas tellement si on en a envie ou besoin. Moi, j'ai l'impression que les artistes sont à la recherche de plus en plus d'humanité, alors sans rejeter tous les outils, mais prendre le temps de créer, c'est quelque chose d'important. Enfin, le cerveau humain avance à la vitesse à laquelle il avance. Noémie en parlera bien mieux que moi, mais c'est pas parce qu'on a des outils qui vont très très vite que on est capable en fait d'ingurgiter à la vitesse des machines. Et je sais même pas si c'est souhaitable quelque part.
Noémie, on va te retrouver sur un temps d'atelier qui porte le titre de santé mentale chez les artistes, comment trouver un équilibre. Alors ce mot équilibre, il m'intéresse puisque quand on parle de métier passion, ça c'est quand même une expression qu'on entend souvent, comment justement on trouve une juste place entre passion et surinvestissement. Moi j'ai tendance à avoir l'impression que dans ces métiers-là, justement, l'équilibre est du mal à... On a du mal à le trouver justement, puisque souvent quand on parle de passion, on peut surinvestir, c'est plus seulement un métier.
Ouais, il y a quelque chose qui est compliqué parce que c'est un métier particulier, artiste. Voilà, c'est quand même pas anodin, c'est un métier où la base de production, on va dire, c'est soi et ses émotions et son vécu. Donc ça, c'est déjà en soi quelque chose qui est particulier, qui... ne s'apprend pas, il n'y a pas d'école pour être artiste. On est artiste parce qu'en général, on ne peut pas faire autrement que de créer. Mais paradoxalement, c'est un métier où, je disais tout à l'heure, on est quand même très, très vite un peu livré à soi-même. Il y a cette évolution du système dont on parlait qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu plus simple aujourd'hui, sortir un album sur des plateformes, c'est facile, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous pouvez payer le coût d'un agrégateur, voilà, il n'y aura pas d'humain derrière, hein, mais concrètement, il y aura vos musiques sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes. Maintenant, la particularité, c'est que comme on est un peu livré à soi-même et il y a un équilibre à trouver, qui est compliqué. C'est pour ça que je parlais d'écologie de travail tout à l'heure, donc d'organisation toute simple. Il y a aussi des enjeux de connaissance de soi, dans quelque chose de très global, très théorique, c'est-à-dire comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne notre corps, comment fonctionne notre psyché, nos émotions, etc. Et quelque chose de beaucoup plus individuel. Thérèse en parlait un peu sur la question de la manière de communiquer. Moi, je l'étendrai à beaucoup de choses. En fait, on a toutes et tous des fonctionnements qui nous sont propres et contre lesquels on ne peut pas lutter. Et plus on va aller contre, et plus ça va être compliqué sur le long terme. Donc, sur la communication, effectivement, ça peut passer par de quelle manière on va avoir envie de se représenter. Mais au-delà de ça, ça peut être comment est-ce qu'on a envie de créer, à quel rythme, de quelle manière, avec qui, basé sur quelles inspirations. Enfin, voilà, ça peut vite être compliqué et ça peut vite être très frustrant puisque ce n'est pas un métier classique où, voilà, quoi qu'il arrive dans votre mois, vous aurez votre salaire à la fin. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un peu cette pression de... c'est une passion, donc ne te plains pas. Parce qu'en fait, toi, tu as la chance de faire ce qui te plaît et il y a des gens qui travaillent à l'usine. En gros, c'est un peu ça le discours. Et au-delà de ça, il y a cette question de « mais si je ne crée pas, si je ne propose pas quelque chose à consommer aux gens qui leur plaît, qu'est-ce que je suis finalement ? Est-ce que je suis artiste si je ne produis rien ? Est-ce que je suis artiste si j'ai moins de 100 personnes qui vont écouter mes morceaux par mois ? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que c'est en fait ? Donc c'est en ça qu'il y a ce côté, voilà, cet aspect assez compliqué et de comprendre aussi que c'est un travail et donc il y a des moments où il faut faire autre chose. Et ça, c'est mon cheval de bataille, c'est que je dis qu'il ne faut pas travailler 7 jours sur 7, en fait. Mmh. Ça, c'est pas normal. Et quand je dis ça aux artistes auprès desquels j'interviens, je sens que ça touche un truc, mais je comprends parce que je suis moi-même artiste, mais en fait, il faut faire autre chose parfois. Il faut avoir des jours où on fait autre chose, juste.
Et il y avait une phrase qui m'avait beaucoup aidée, justement sur ce sujet-là, c'est que j'avais ma coach scénique qui m'a dit « Thérèse, les temps de pause font partie de ton travail. » Et ça m'a aidé beaucoup à déculpabiliser, en fait, de ne pas être en mode 7 sur 7, 24 H, parce que Parce que oui, de toute façon, le corps, d'une part, ne tient pas. Et après, on est très inégal et inégaux. Donc, parfois, chez certaines personnes, le corps tient, avec ou sans substance. Et puis, ça dépend des âges aussi. Mais oui, intégrer vraiment que les pauses en font partie, c'est une vraie, comment dire, bonne habitude à prendre. Parce qu'en plus, je trouve, en tout cas pour ma part, que les effets positifs se font ressentir assez rapidement. Parce que finalement, quand le cerveau s'ennuie, c'est les moments où il devient le plus créatif. Donc, quelque part, c'est aussi productif pour nous. Et même si je pense que ce n'est pas forcément la meilleure façon de penser, ça peut déjà aider certaines personnes à lever un peu le pied et à faire des pauses.
Et je rebondis du coup juste sur ce que tu disais tout à l'heure, Thérèse, sur la question du temps. Ça rejoint aussi ça. On a une impression, on est dans une société aujourd'hui qui se veut très productive. Il faut produire des choses, voilà. Ça. Et on peut avoir l'illusion que c'est facile de produire rapidement parce qu'aujourd'hui, on a des méthodes de production qui sont hyper rapides. Internet, typiquement, dans la manière de communiquer, dans les manières de se déplacer, on vit quelque chose que l'humanité n'a jamais connu, en tout cas pas à notre connaissance. Et ça, c'est compliqué d'appréhender le fait que notre cerveau et notre corps ne va pas à cette vitesse-là. Et c'est une vitesse qui n'est pas, qu'on ne peut pas égaler et qu'on ne pourra pas égaler. Et en fait, notre cerveau et notre corps ont besoin d'un temps qui est incompressible. Et effectivement, alors oui, on n'est pas tous et tous égaux. Maintenant, il y a des personnes qui vont avoir la capacité de tenir plus longtemps, mais à quel prix ?
Oui.
Il y a des gens qui, enfin, pour utiliser l'expression, il y a des gens qui se crament, quoi, vraiment.
Exactement.
Et, c'est hyper dangereux, quoi.
Et j'ai envie le mot burn-out sort pas de nulle part, quoi.
Justement, j'ai envie de parler de cette notion de plaisir, de passion qui parfois peuvent masquer peut-être la fatigue, le danger dont vous venez toutes les deux de parler. Comment on reconnaît les signaux d'alerte avant, peut-être le moment de rupture ? Est-ce que, j'imagine que pour chaque personne c'est différent, mais c'est important aussi de parler des signaux d'alerte, des fois qu'on voit pas venir.
Bah, alors effectivement, ça va être plus ou moins différent selon les personnes. Maintenant, le principe du burn-out, c'est ce que ça veut dire, hein, c'est un épuisement des ressources. Donc c'est en gros, c'est un élastique qui tient, puis au bout d'un moment qui lâche. Donc ça peut être des symptômes physiques autant que psychologiques. Donc ça peut être une modification de la capacité à dormir, soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire être tout le temps fatigué ou ne plus du tout arriver à dormir ou avoir besoin de dormir tout le temps. Ça peut être une perte d'appétit, ça peut être une perte de motivation, ça peut être ce que souvent on va associer à ce qu'on appelle la dépression, en tout cas un épisode dépressif. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas juste une fatigue physique, c'est un épuisement émotionnel aussi. Et ça, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas le voir, ou en tout cas pas le sentir, parce qu'elles ne veulent pas le sentir. Et si on ne se pose pas, bah, en fait, on ne se rend pas forcément compte. D'où l'importance aussi de faire des pauses pour apprendre à s'écouter et à se comprendre. Mais vous avez des personnes qui vont être en burn-out et qui vont tenir. Mais le moment où ça va lâcher, c'est compliqué. Ça, plus vous tenez, et plus le moment où ça va lâcher va être difficile et ça risque d'être plus compliqué de s'en remettre. Et il faut comprendre aussi que ce n'est pas juste une fatigue passagère. C'est des personnes qui, pour certaines, vont être complètement immobilisées. C'est pleurer avant d'aller au travail, pleurer le vendredi soir parce qu'on sait que le lundi, ça va recommencer, tant est qu'on ait un week-end. Un système immunitaire qui va être déficient. Ça peut être plein de choses comme ça, mais et en tout cas une vraie perte de plaisir. C'est cet élément-là au bout d'un moment, est-ce que le rapport coût-bénéfice fait sens ?
Moi, c'est, je rebondis assez rapidement, mais moi, ce truc, je l'ai vécu avant d'être artiste. Et peut-être que ça m'a malheureusement et heureusement en même temps aidé à reconnaître les symptômes de burn-out. Parce qu'avant, j'en avais fichtrement aucune idée. Hein. J'ai évidemment été dans le déni dont parle Noémie. J'ai vu 3 médecins différents qui ont voulu me prescrire des anxiolytiques. Je me suis dit, mais ils ne me connaissent pas, ceux-là, je suis une machine. Et effectivement, je pense que je me prenais pour une machine, sauf qu'on n'est pas des machines. Et j'en suis effectivement arrivée au point où mon corps m'a vraiment dit « arrête ». Et donc, j'étais incapable de sortir de chez moi. J'étais en boule dans mon lit. J'étais plus capable de prendre une douche, faire des courses, me faire à manger, etc. Heureusement que j'ai été accompagnée. Je veux dire, à l'époque, je vivais avec quelqu'un. Mais voilà, et c'est suite à cet épisode vraiment traumatisant où j'avais vraiment peur de rester bloquée quelque part. Enfin, c'était ma plus grande peur en tant qu'hyperactive, évidemment, de rester bloquée dans un état végétal. Et du coup, c'est suite à ça que j'ai appris à faire plus attention. Alors, je dis pas du tout que ça a été simple et que ça a pas mis des années et des années avant de comprendre réellement ce qu'est le soin de soi. Il a quand même fallu que je passe par la greffe pour que je prenne la mesure en fait de ce cadeau qu'est le corps humain. Je souhaite à tout le monde de pouvoir s'en rendre compte suffisamment tôt et avant un crash. Mon interrogation aujourd'hui qui est un petit peu plus méta, c'est est-ce que l'être humain en est capable ? Mais ça c'est autre chose, c'est une autre question.
Et alors justement, si on parle de responsabilité du secteur, du collectif, des structures, quel type d'espace ou de dispositif peut-être manque encore aujourd'hui pour prévenir la souffrance au travail dans le champ artistique ?
Ouais. Wow.
Beaucoup de choses. Bah, déjà, ça passe clairement par une phase d'éducation et c'est ce que... c'est ce que Thérèse fait, c'est ce que je fais, c'est ce que d'autres personnes font aussi. Il y a pas que nous, il y a quand même de plus en plus de personnes qui se mobilisent sur les questions d'éducation, qu'est-ce que c'est que la santé mentale, de travailler de manière saine, de trouver un équilibre, etc. etc. Maintenant, il faut comprendre que, en général, les personnes qui s'en saisissent sont des personnes qui sont concernées, mais pas forcément celles qui ont plus de ressources. Pas forcément celles qui ont... Alors Thérèse, t'as un peu plus... Moi, je suis moins connue, par exemple, dans le secteur. Thérèse, toi, un peu plus. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'on va entendre des choses comme 2025, c'est l'année de la santé mentale. On sait que... il y a des études qui sont sorties. Il y a des collectifs qui sont mobilisés pour produire des études chiffrées. On a des témoignages. Les gens sur le terrain voient qu'il y a énormément de souffrance. Maintenant, on peut pas. Enfin, nous, à notre échelle, on peut y aller intervention par intervention. Mais il y a un moment donné où, quand on voit, par exemple, ce qui se passe au niveau, budgétaire, alors que là, il y a un réel besoin de mettre en place des dispositifs d'accompagnement, des dispositifs qui permettent d'externaliser les gestions de crise. Des médiateurs, médiatrices, psychologues du travail, un secteur de l'ordre des ressources humaines qui n'existe pas vraiment dans le secteur, où il faut aussi entendre que la particularité de la culture, c'est que ce sont beaucoup de petites associations qui ont été montées par des gens qui, à la base, avaient envie de monter un festival, et puis en fait ça fonctionne, et puis donc en fait ils montent une asso, et puis en fait c'est des personnes qui ne sont pas forcément formées aux questions de qu'est-ce que c'est que d'employer des gens, qu'est-ce que c'est que de gérer des publics avec des personnes aussi parfois qui ne sont pas très déconstruites sur certains points. Donc, c'est aussi un peu compliqué. Il y a une réelle précarité, notamment économique, qui fait que pour beaucoup de personnes, c'est pas l'urgence, c'est pas la priorité, en fait. Ça, c'est malheureux parce qu'en fait, tout est un peu lié. Donc, de toute façon, si vous mettez ça de côté... ça ne fonctionnera pas avec ou sans argent, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, il y a une vraie responsabilité publique, il y a une responsabilité de la part des structures, il y a une responsabilité notamment de la part des gros monstres du secteur, les gros labels, les grosses maisons de disques, les gros festivals. Il y a une responsabilité à prendre et qui n'est pas prise. Il y a des cas de maltraitance terrible, des personnes de la part de très gros festivals qui auraient les moyens, de faire quelque chose et mettre des choses en place. Et puis, il y a une responsabilité de la part de l'État, ça, c'est évident. C'est une question de santé publique, en fait.
Donc, bien sûr. Je trouve, pour compléter ce volet argent-budget qui est évidemment le nerf de la guerre, hein, à la fois sur la prévention et aussi de donner des sous aux artistes pour pouvoir se soigner et aux professionnels de l'industrie. Il y a aussi la question des représentations conscientes des médias, par exemple, qui est-ce qu'on interview, qui est-ce qu'on fait jouer en festival, etc. Et de pouvoir aussi avoir d'autres discours. Il y a des gens qui ont envie d'être ultra super connus et multimilliardaires, c'est un but dans la vie, pourquoi pas, mais il y a des gens pour lesquels c'est peut-être pas un but, et peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir montrer ces personnes-là, de faire comprendre en fait que qu'on peut changer sa notion du succès, qu'on peut se réapproprier ce que ça veut dire que réussir. Moi personnellement, j'ai mis quelques années à cheminer et j'ai essayé de me plier au modèle dominant parce que je pensais que c'était le seul chemin, parce que c'est celui qu'on nous vend. Or, je me suis rendu compte qu'en essayant de me plier à ça, ça me rendait ultra malheureuse, parce qu'en vrai, moi, être connue, je m'en branle. Enfin, vraiment, je le dis honnêtement. Alors oui, être connue pour mon travail, c'est une chose, mais être connue juste pour la notoriété pure et dure, quand on mesure ce que c'est, parce qu'on en parle peu de ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'adore prendre un verre en terrasse avec mes potes et qu'on me fasse pas chier. Que peut-être qu'une fois par mois, on vient de me dire « Oh, c'est super ce que tu fais, ça flatte mon ego, c'est top. » Mais j'aime pouvoir sortir de chez moi dans l'anonymat. Et d'avoir la liberté de me mouvoir, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Et aussi de faire comprendre, de montrer un petit peu plus dans les médias que les carrières ne sont pas linéaires. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Souvent, quand on débute dans la musique, on a l'impression que c'est une longue ascension jusque, je ne sais pas, au paradis, aux 100 000, aux millions de vues sur YouTube, etc. etc. Or, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Et je pense que l'industrie gagnerait à montrer justement une diversité de carrières et d'artistes qui sont épanouis voilà, différemment. Moi aujourd'hui, je me rends compte que j'ai jamais compté sur la musique pour vivre. Alors j'en vis aujourd'hui et j'ai beaucoup de chance, je mesure ma chance, mais je me suis dit, peut-être parce que je suis arrivée plus vieille dans l'industrie, que si j'en vivais pas, ça ne voulait pas dire que j'étais pas artiste. Il faut décorréler, je pense, le statut du fait de remplir son frigo et de payer son loyer avec. Parce que, et ça revient à redéfinir, en fait, quelque part, le statut de l'artiste dans la société. Qui sommes-nous ? Est-ce qu'on est juste des pantins, entre guillemets, du capitalisme comme d'autres ? Ou est-ce qu'on a une valeur ajoutée ? Et où se situe la valeur ajoutée de l'art, quelque part ?
Et donc redéfinir aussi cette, vu qu'on utilise le mot performance là dans ces temps autour de la santé, redéfinir aussi le lien entre création artistique et performance. Se dire à un moment peut-être que les deux ne vont pas systématiquement ensemble.
Ouais, et puis pour rebondir, il y a beaucoup de manières de créer, beaucoup de manières d'être artiste. Il y a autant de manières qu'il y a d'artistes. Y a des gens qui vont être dans quelque chose de l'ordre de la transmission, des personnes qui vont avoir envie de lier ça à d'autres choses, qui vont vouloir être auprès de publics particuliers. Y a des personnes pour qui ça veut dire pratiquer de temps en temps, des personnes pour qui c'est être en tournée le maximum de temps et dans les plus grosses salles. Pour autant, toutes ces personnes, elles sont artistes, en fait. Il n'y a pas de différence. Et effectivement, il y a vraiment la notion de... c'est pareil, tous les artistes ne sont pas intermittents. Aujourd'hui, le grand public a compris plus ou moins ce que c'était que l'intermittence. Donc, on entend aussi souvent cette question-là. Mais est-ce que le but, c'est d'être intermittent ou c'est d'être artiste ? Et moi, le jour où on m'a posé cette question-là, ça m'a fait reconsidérer aussi beaucoup de choses. Intermittent, c'est pas un métier. Par contre, ça peut être un moyen, effectivement, de structurer son activité d'artiste. Mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Et effectivement, la question de il y a une différence entre être reconnu pour effectivement ce qu'on fait, son travail, ce qu'on apporte. En tant qu'artiste, puisqu'on apporte quelque chose aux gens, hein, n'en déplaise, les non essentiels. Donc, si, en fait, c'est essentiel pour plein de raisons et des très scientifiques, n'en déplaise aux détracteurs. Mais il y a aussi être reconnu ou être connu, ce qui n'est effectivement pas la même chose et ce qui ne va pas apporter la même chose. Et c'est là où c'est important aussi de savoir qui on est et ce qu'on. et ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Et il y a des gens qui, effectivement, n'ont aucune envie d'être connus. En revanche, être reconnu, ça n'est pas la même chose. Et à l'inverse, il y a des gens qui s'en fichent d'être reconnus.
Tout à fait.
Qui ont très envie d'être très connus. OK. Enfin, moi, je veux dire, à titre individuel, peu m'importe. Par contre, si, aller à l'encontre de ça, c'est effectivement ouvrir la porte à beaucoup de souffrances.
Complètement. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Noémie, la connaissance de soi, c'est vraiment quelque chose de primordial. Enfin, moi, je me souviens d'avoir la première question qu'on m'a posée, qui m'a vraiment chahutée quand je suis sortie de chez moi avec mes premiers EP que j'avais autoproduits par un crowdfunding de copains. C'est Alex Monville qui m'a posé cette question et il m'a dit « Mais pourquoi tu fais de la musique ?» Et c'est la première question à laquelle j'ai été confrontée en sortant de chez moi. Et quand il m'a posé cette question-là, je me suis mise à pleurer, en fait. Parce que je me suis rendu compte que je le savais intrinsèquement dans mon corps, mais j'étais incapable de l'exprimer. Et aujourd'hui, c'est une question qui me hante presque tous les jours, mais c'est le fantôme gentil, c'est le petit Casper, qui me hante. Et tous les jours, je me repose la question, mais pourquoi je fais de la musique? Et ça m'aide beaucoup, en fait, à être comme une sorte de boussole, pour avancer dans ma carrière, parce que parfois on perd justement ce nord-là et on devient un peu des automates et on fait pour faire plutôt que de faire pour soi et puis pour les autres. Et je trouve que justement, enfin ça c'est ma définition personnelle et je voudrais pas forcément la projeter sur d'autres personnes, mais je me rends compte que faire de la musique, ça a été aussi une façon pour moi de me lier aux gens et notamment de me lier aux gens que je ne connais pas. Et je crois qu'être artiste, c'est aussi créer de l'invisible. Dans ce sens-là, le lien n'est pas forcément mesurable, la profondeur du lien aujourd'hui n'est pas mesurable, mais je crois que c'est quelque chose qui est hyper essentiel à notre société, d'autant plus avec tout ce truc d'hyperconnexion, de réseaux sociaux, etc., qui nous fait perdre en humanité. Et les artistes, pour moi, en tout cas, c'est la mission que moi je me fixe, c'est ça, c'est de recréer du lien réel. Alors, je suis sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est un outil que j'utilise, mais au maximum, j'essaie de faire des tournées plus de l'action culturelle parce que l'action culturelle me permet vraiment d'être au contact des vrais gens et de discuter avec ces gens plutôt que de dire « Salut Nantes, salut Bordeaux !» et en fait, de pas voir d'humain. donc, voilà. Et ça fait partie d'un cheminement thérapeutique et psychologique autour de tout ça. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir les moyens d'être suivie par des psys. Et donc, je sais, c'est même pas je pense, je sais intrinsèquement que ça m'a aidée à cheminer dans mon parcours d'artiste et d'être humain pour savoir aujourd'hui comment je me positionne dans ce grand échiquier qu'est la société, quoi.
On vous retrouvera donc toutes les deux à l'occasion du forum sur la santé des musiciennes, des musiciens organisé par le 6x4 et le pôle de coopération pour la filière musicale ce lundi 17 novembre. J'ai envie de rappeler à nos auditeurs les différents temps sur lesquels on va vous retrouver. Il y aura un premier temps avec toi Thérèse, donc santé et bien-être des artistes. Comment aider les artistes à lever le tabou sur les questions de santé dans une industrie performative. On vous retrouvera toutes les deux sur le temps santé mentale des artistes en 2025. Les artistes de l'industrie sont-ils tous voués au burn-out? Et puis, toi, Noémie, on te retrouvera pour un atelier sur le thème donc, de la santé mentale chez les artistes. Comment trouver l'équilibre? Ensemble, on a fait qu'effleurer finalement un peu toutes ces questions, puisqu'en fait, c'est un sujet, comme on a pu le voir, très vaste. En même temps, qu'on soit concerné, qu'on soit du milieu ou pas, c'est intéressant de se pencher sur ces questions-là, puisque ça nous concerne tous. Merci d'avoir été avec nous. Et donc, on invite l'auditeur de l'autre radio à se rendre à ce forum sur la santé des musiciens pour aller un peu plus loin que ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci beaucoup. Venez le 17, on va se faire du bien.
Plus, je rappelle que l'inscription, en fait, il faut juste s'inscrire, mais sinon, c'est un temps gratuit. C'est important de le préciser.
Exactement.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Dans cet agenda culturel de la semaine, je vous rappelle bien sûr que lundi 17 novembre, le 6x4 vous donne rendez-vous au 40 pour le forum sur la santé des musiciens dont on vient de parler tout au long de cette émission, un temps gratuit mais sur inscription. Notez bien, on continue ensuite en faisant un focus particulier puisqu'on vous parle d'une date qui arrive très vite, dont on devrait vous reparler la semaine prochaine dans l'AJT. Une représentation accompagnée d'un temps d'échange par l'autre radio. Avant la représentation d'ailleurs, on écoute Christine Houdard nous en parler.
Le jeudi 20 novembre, nous accueillerons l'Anima Compagnie, donc compagnie lavalloise, qui créera, ça sera la première représentation, son prochain spectacle, donc qui s'appelle « Tout tient encore debout ». Et donc pour ce spectacle, Lucie Rimbaud est à la mise en scène, mais également à l'écriture du texte. Et elle va aborder un sujet qui n'est pas forcément facile. Elle va s'attacher à travailler sur les troubles des conduites alimentaires, et notamment l'impact que ça peut avoir, notamment sur les adolescents et les adolescentes. Et donc on va suivre le parcours d'une jeune fille de 15 ans, qui au départ est plutôt pleine de vie et ne se pose pas trop de questions. En fait, elle croque la vie. Et jusqu'au moment où, entre quelques remarques un peu déplacées, genre « Ah, bah t'as un bon coup de fourchette, oh, mais t'aurais pas pris un peu que quelques kilos ?» Plus les réseaux sociaux qui affichent des modèles qui peuvent être largement discutables, tout ça va commencer à lui créer des pensées parasites et petit à petit, elle va sombrer dans les troubles alimentaires, donc que ce soit l'anorexie, des phases de boulimie. On va suivre son parcours et aussi son isolement au travers de cette maladie. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu de la pièce. Lucie Rimbaud, au sein de la compagnie, est vraiment attachée à travailler sur des thématiques liées à l'adolescence. Et donc, dans les précédentes créations, on avait accueilli Les Écorchés qui parlaient du harcèlement scolaire. Et c'est toujours abordé de façon intelligente et sensible. Donc voilà, nous attendons avec impatience cette création.
L'AJT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Thérèse et Noémie d'avoir été avec nous. On se quitte, mais avant, on regarde rapidement le programme de votre soirée sur l'autre radio à 19h. Ce sera Le Masque et la tronçonneuse à 21h, quand la musique est bof. C'est une soirée cinéma sur les ondes ce jeudi. Moi, je vous dis à demain pour le best-of de l'AJT du local. Comme chaque vendredi, ce sera donc le best-of de votre émission quotidienne, mais pas seulement. D'ici là, laissez-vous porter par une petite chose agréable, sans chercher plus loin, ça fait du bien. Oui, s'il vous plaît, faites-le bien.
Voilà, rideau tombé pour aujourd'hui.
Mais revenez demain, on vous garde des places.